Le linceul. Il m'a enfermé dans la boîte, sans me ligoter. J'avais promis d'être sage, de ne pas bouger. Leur chef avait souri, réfléchi quelques secondes, puis, d'un signe de tête, donné son autorisation. Après, ils posèrent soigneusement le couvercle pour le clouer. Chaque pointe chantait à sa manière sous le marteau. La troisième, par exemple, grinça sous la torsion et je me mis à penser à certaines dentitions qui ne supportent pas ce son sans début ni fin, un son venu d'un indéfini toujours surprenant. Un clou se tordit et un des hommes poussa un juron. Le cercueil en pin avait gardé une odeur de résine agréable sans être entêtante. Je choisis la position la plus confortable possible dans l'espace réduit. Sur le dos, la tête penchée vers l'arrière, les jambes écartées jusqu'à toucher les planches. Au-dessus, ils s'affairaient avec une belle énergie. J'entendais leur respiration ponctuée par le son des pelletées de terre qui se fracassaient sur le bois. En quelques minutes, le bruit se fit ténu, puis sourd, puis imperceptible, et enfin le silence s'installa dans le noir intense. Et c'est seulement à cet instant précis que je pris conscience de ma triste existence comme de sa fin très proche. J'imagine qu'il eût fallu une terrible panique pour faire bonne mesure, une angoisse à pisser de sueur par tous les pores, mais ce ne fut pas le cas. J'aime le noir d'encre de la nuit. Il m'apaise. D'autant plus fort quand je suis immobile, que mon souffle est calme et régulier. Je ne connais pas d'instant plus agréable. Alors soyez sympa, ne me plaignez pas. Et quoi qu'il en soit, attendez d'abord de savoir pourquoi les méchants m'ont enterré vivant. On aurait dû lui tirer une balle dans la tête, ça me semblait plus simple. Et pourquoi le faire? En fait, je sais pas trop. Alors au lieu de chercher à adoucir la mort de ce salopard, tasse-moi la terre correctement. Après, tu sèmes quelques graines et dans 2 semaines, tout est comme avant. T'es un petit marrant, je les trouve où, les graines? Laisse tomber. Personne ne passe par ici. Quand bien même. Ma courte vie défile accélérée. Je vois le bambin surexcité d'alors, puis l'ado incapable de se maîtriser, violent, agressif, dominateur aussi. Un exécrable individu, en fait. Sans la rencontre, j'aurais fini bien plus tôt dans une boîte. On se rassure comme on peut. Il y a une petite bête qui se promène sur ma joue. Je fais quelques grimaces pour la chasser et elle se glisse dans mon cou. Facile de parler de mon éducation quasi inexistante. Une longue succession de raclées, des séries de coups de ceinturon. Un dosage savant avec des variations quant à la violence et des cibles variées pour que je ne m'habitue pas à la douleur. Moi, je n'aimais pas trop les impacts sur les cuisses. Quitte à choisir, mes préférences allaient au dos. Mais mon vicieux géniteur était assez attentionné pour sentir quand ça faisait mal. Par prudence, il gardait en main la boucle, évitant ainsi des marques trop visibles. Rares étaient les jours où mon dos, mes cuisses ou mon cul n'étaient pas à vif. L'homme avait de la méthode. Pour le reste, une vie saine à la campagne, de rudes occupations après l'école et pendant la nuit, un frère aîné qui me forçait. Ma mère avait une tendresse particulière pour la bouteille et oubliait jusqu'à mon prénom. Merci la vie, l'amour et la famille, ça fait passer le temps. Mais soyons justes, ma grande sœur était assez sympa. J'avais parfois droit à un câlin, elle aussi, avec son père. Ainsi je grandis sans illusion jusqu'à mes premiers poils. C'est alors que plusieurs opportunités s'offrirent à moi. Je m'empressai de saisir la première que j'appelais ma libération et ce, bien qu'elle m'eût envoyé tout droit en prison. Je venais d'avoir 13 ans. On m'en donnait, c'est bien gentil, 2 ou 3 de plus. Rapport à une proéminence musculaire subséquente aux travaux des champs, les plus pénibles puisque le grand frère et le père se réservaient les autres. Un beau jour, alors que la machine à fendre les bûches refusait de se mettre à la tâche, je fus désigné tout naturellement pour accomplir le travail à l'ancienne. Muni d'un merlin, enchanté, et de quelques coins. Je m'attaquais au tas de bois tandis que les 2 autres bricolaient l'outil défectueux en pestant. Ce n'était pas pour me déplaire, j'aimais l'exercice quel que soit son type. Mais sans assistance, c'était usant avec les grosses sections. Le tas ne diminuait pas très vite. Bien énervé, je frappai un coin de travers violemment, tant et si fort qu'il gicla en dehors de son habitacle en direction des 2 pour atterrir à leurs pieds. Tu peux pas faire gaffe, petit connard. Je fais ce que je peux, j'avais qu'à m'aider si ça vous plaît pas. » C'était plus qu'il n'en pouvait supporter. Il se précipita vers moi pour me tirer les oreilles. Alors, ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que son fils cadet, d'un coup d'un seul, à l'instant, était devenu rebelle. Et le coup d'essai fut un coup de maître. Ma vie pleine de rides creuses, assortie de sensations excitantes, pouvait commencer. La précision du coup de Merlin me rendit fière. La jambe de l'enflure se déroba sous lui avec un sinistre craquement à vous glacer le sang. Les traits défaits par la douleur, mon colosse de père gémissait comme un enfant qui vient de se coincer la bite dans la fermeture éclair. Cet homme qui m'avait fait tant souffrir était pitoyable. Ma pitié ne fit que passer pour laisser la place à de la haine, de la colère froide. Une rage sourde m'envahissait, dictait chacun de mes gestes comme si un autre que moi en était l'auteur. À l'instant où il s'apprêtait à m'adresser la parole, sans doute pour dresser sa liste de griefs et toutes les punitions qui en découleraient, j'éclatai sa mâchoire d'un coup sec, puis son crâne, en prenant un peu d'élan. Sa tronche était méconnaissable, bouillie infâme à l'esthétique discutable. Le frérot sodomite fit vite. Muni d'une barre à mine, il se précipita vers moi, l'œil mauvais. Était-ce son regard? Son pas décidé? Sa manière d'empoigner la barre de ses deux mains aux jointures blanchies? Ou l'ensemble? Je vis bien qu'il ne venait pas en paix, que ses sentiments guerriers avaient atteint des sommets fratricides. Mais ce con trébucha, s'étala de tout son long à portée de Merlin. Je lui fendis la poire. Son corps fut pris de petites convulsions, puis s'immobilisa, mort sans avoir eu le temps de m'enfiler une dernière fois. Ma sœur et ma mère se pointèrent. Pourtant, nous n'avions pas fait de bruit, nous, les hommes. Elles furent sans doute guidées par une curieuse sensation, l'impression qu'il se passait quelque chose sans pouvoir en définir les raisons. L'une avait gardé une bouteille à la main. Elle resta bloquée net quelques secondes, puis but une bonne lampée. Après quoi, d'une phrase laconique, elle conclut « Quand on joue au con ». Je fus agréablement surpris par son point de vue sur le carnage. Maman était de retour, aimante et compréhensive. Enfin presque. Ma sœur fut moins cool et entama des vocalises stridentes à déchirer le temps pour l'éternité. Elle me regarda, interdite, assez longtemps pour que je comprenne ma disgrâce. Depuis ce jour, elle vit son reste d'existante, toute de blanc vêtue, en déambulant avec d'autres à travers ses pensées. Un endroit où on lui explique qu'elle sortira demain si elle prend ses cachets. Surtout les vers, ceux qui font oublier le pourquoi tout en effaçant le comment. Les trois amis épiaient les hommes en costard trop bien sapés pour se livrer à une activité de terrassement habituellement exécutée par des hommes en salopette. Et c'est parce que l'habit fait le moine qu'ils restèrent à leur poste d'observation jusqu'à la fin des travaux. Ils ne comprirent pas tout, tout de suite, et échafaudèrent à voix basse plusieurs théories. Secte satanique? Jeu sexuel morbide? Trésor à cacher? Mais à la fin du labeur, force leur fut de constater que l'homme enfermé dans le cercueil ne jouait pas. Il était inhumé 6 pieds sous terre pour l'éternité, pas pour de rire. L'effroi parcourut les jeunes échines, la petite assemblée se figea, comme un vent de terreur, presque de panique, qui fixerait l'instant. Chacun prit la mesure de son propre désarroi, de son destin qui eût pu s'écrouler sans aucun signe avant-coureur. Avant de rejoindre en contrebas leur destrier, ils attendirent le départ des fossoyeurs sans bouger une couille. Le remue-ménage commença. Le silence se brisa en laissant s'installer une cacophonie, plutôt une forme de thérapie par le verbe, histoire de désavouer sa peur en forçant le son des mots. Une bravade, un souffle d'à-propos avant le calme et la réflexion. Que faire sans avoir à subir la répression des adultes qui ont toujours du lait sur le feu ou une affaire de plus haute importance qui ne peut pas attendre? Que faire quand la vérité n'est pas bonne à dire? Les raisons d'adultes sont souvent des surprises inimaginables pour des enfants sains d'esprit et surtout quand elles sont assénées sans aucune explication. Tu peux pas comprendre. Madame Angèle, qui passait par là, les interpella. La vieille dame faisait fi des recommandations municipales et d'une certaine manière élevait des pigeons qu'elle nourrissait copieusement chaque jour. Ainsi, les bêtes en surnombre chiaient sur les habitants du quartier. Angèle s'en réjouissait. Probable qu'un vieux contentieux n'avait pas trouvé d'issue profitable. Une querelle de voisinage de plus. Un sujet destiné aux chroniques des journaleux. 15 ans, ça vous forge le caractère. 15 ans pour apprendre la nature des hommes, prendre le temps d'y réfléchir, d'en tirer les conclusions, de choisir le bon chemin, aurait dit l'autre. Seulement moi, je connaissais déjà le vice et les vicissitudes d'une vie d'enfant bien pourrie. J'avais déjà une petite idée, un avis sur la question, un projet d'avenir assez précis pour ne pas tendre l'oreille à tous ces gens prodigues en conseils. Le caractère, ça se forge peut-être bien dès le berceau. Une question de cuillère et de sa teneur en métaux précieux. Comme dirait un de mes élégants voisins de détention, on a tous un trou du cul, mais quand c'est toi qui choisis de l'élargir, c'est mieux. La pensée existe même entre quatre murs. J'irais même jusqu'à dire qu'elle n'est pas l'apanage des... Cherchez vous-même. Tout le monde connaît un gars qui se prend la tronche, qui vous explique en vous baptisant « débile qui ne peut pas comprendre parce qu'il n'a pas le bagage ». Sage, son surnom, m'a pris beaucoup. Avec lui, j'ai pu m'extraire de cet univers carcéral bizarre qui prétend parfois te soigner alors qu'il expérimente. Souvent au pif, sans trop savoir. En quelques années, Sage m'enseigna l'essentiel. Méditation calme et volupté. Depuis, je n'ai plus jamais eu le moindre accès de rage. Je canalise comme un grand ma violence et, si nécessaire, la transforme en arme redoutable. Je dois à l'homme cette tranquillité non feinte que j'éprouve dans ce cercueil. Je lui dois d'être dans un état presque extatique pour profiter du peu qu'il me reste. La caisse est devenue mon abri. Home sweet home. J'exagère toujours. Je sais bien que dans peu de temps, je mourrai non sans avoir souffert tout mon sou. Je sais qu'il est difficile de trouver plus horrible comme mort, que manquer d'air n'est pas plaisant. Mais en attendant cette nouvelle expérience, comme jouir du temps qu'il me reste est ma seule option, je savoure. Les policiers ne croient pas la vieille, encore moins les trois gosses bien connus pour leurs farces et attrapes. Le chef circonspect se gratta l'aine un peu plus longtemps qu'à l'accoutumée en soupirant. Comme il était assez gros pour reprendre deux fois de la daube, son souffle court, quoique puissant, avait une sonorité bruyante, comme si le parcours dans les tuyaux était plus difficile que pour un filiforme. Dans le doute, le « on sait jamais » qui incite la plupart à jouer plein de fric au jeu, il envoya deux gars jeter un coup d'œil. Deux inséparables incompétents. Les pires du commissariat, les mauvais en tout, les planqués par obligation pour ne pas foutre la honte aux collègues. En chemin, l'un d'eux, pris d'une envie de pipi, en profita pour s'en jeter un chez son beauf qui tenait un bar des amis. Quelques lois plus tard, ils se rendirent derrière le cimetière à l'endroit désigné par les gosses. Ils constatèrent que la terre était meuble, voire molle, précisa l'un des deux. Les enfants étaient rentrés chez eux pour se faire sermonner par des parents aimants et recevoir quelques baffes bien méritées. Après la rapière, la question « Que vais-je faire ?» me turlupina car je ne me sentais pas de vocation particulière. Avec en poche un CAP d'ajusteur, je me sentais un peu nu et en tout cas pas très motivé par l'alésage. De penser que la majorité de mon temps serait consacré à sortir des pièces au micron ne m'emballait vraiment pas. Fort comme un bœuf, malin comme un singe, cruel comme un crocodile, méfiant comme un loup solitaire, j'avais assez de capacités pour prétendre à une autre destinée. Dans ma petite ville, il n'y avait pas trop de choix pour débuter. Tout naturellement, je me fis enrôler dans l'équipe de Louis, brocanteur le jour, cambrioleur la nuit. Quelques mois plus tard, mes premières armes dans le métier de hors-la-loi me semblèrent bien ternes. Les exercices nocturnes ne me donnaient pas suffisamment d'adrénaline, pas assez de train de vie. Je dus migrer vers la grande cité et trouver un emploi à ma mesure. Changer de statut en quelque sorte. Au hasard des rencontres, je m'imposais comme un encaisseur de valeur. Puis je gravis les échelons de mission en mission, de trahison en trahison, et pus commencer mon boulot de nettoyeur. Dans ce milieu, où tout finit prématurément les pieds devant, je devins la pointure des pointures, la référence label international, le gars qui faisait le boulot proprement sans état d'âme. J'en suis, à ce jour sombre, plutôt fier. Mais même le pro très recherché commet parfois une erreur. Ce jour 100 où j'appris que nul n'est infaillible fut le début de ma fin. Une chute brutale sans égard, sans clémence, sans appel. De retour au poste, les bras ballants, les deux crétins furent renvoyés immédiatement par leur chef au même endroit, avec une seule mission, creuser. Sitôt dit, sitôt fait. Le temps de finir le délicieux café-machine. Le temps de trouver une pelle, de désigner celui qui se mettrait au bout en premier. Le temps de parcourir de rechef le trajet. Le temps qu'ils pellent en soupirant à chaque pelletée. Le temps qu'ils s'arrêtent pour s'enrouler une. Le temps qu'ils découvrent la boîte. Le temps qu'ils trouvent un pied de biche. Le temps qu'ils décident de se manier le train au cas où l'égarnement est livré. Le temps pour certains n'est pas vraiment un problème majeur et ce, quelles que soient les circonstances. Sauf quand ils arrivent à la fin de leur parcours, le temps de voir celui qu'ils ont perdu. Le temps d'un ultime râle. Qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte? L'air vient à manquer dans ce moule. La sensation d'étouffer devient très douloureuse. Je fais ce que Sage m'a appris pendant de longues séances. Je vide tout car je dois perdre rapidement connaissance avant que la douleur ne devienne insupportable. Je m'applique. Je n'ai nulle envie de céder à la peur panique. Finir ainsi me déciviliserait. À mes yeux s'entend. Une courte vie remplie d'actes intenses s'achève. C'est toujours mieux qu'une longue ennuyeuse. Je vous laisse. J'ai besoin de me concentrer. Je devais liquider l'amant de la fille d'un caïd. Ce que je fis. Quand la fille en question avait voulu me descendre avec un gros pétard déniché sous l'oreiller, ça s'était gâté. Plus prompte, je lui avais fait exploser le crâne illico et j'en avais profité pour dessouder son jeune enfant qui venait aux nouvelles. Pas de traces, pas de témoins, tout ira bien, disait-on chez nous. Mon brillant fait d'armes n'avait pas plu au père et grand-père. Avant même que la scène des crimes soit reconstituée, il lança un contrat généreux sur ma tête. Flatté dans un premier temps qu'une telle somme puisse m'être allouée, rapidement, je me rendis compte que m'en sortir serait impossible. Faire face au milieu, ça ne marche que dans les films américains. Cependant, il était indispensable que je passe de vie à trépas lentement. Le donneur d'ordre était un homme élevé dans la tradition catholique. Il était évident que pour le meurtre de sa fille et de son petit-fils, ce soit supplicié comme le Christ l'avait été. Que de chi pour le pardon, que de chi pour l'autre joue, et l'amant était déjà passé en perte et profit. Un conseil de famille restreint avec sa vieille mère pour décider de mon trépas, et voilà. L'aïeul se chargea de l'organisation. Tout avait été prévu dans les moindres détails, et ceux qui auraient pu être des collègues se chargèrent de la bonne exécution. La punition doit être à la hauteur du malheur. C'est sur ce proverbe teuton que je viens d'inventer que le paragraphe s'achève. Je crois qu'il est suffisamment explicite. Le temps de déclouer le couvercle, le temps de transporter un corps inanimé à la morgue, le temps de se raviser, de me faire examiner par un urgentiste, le temps des figures imposées, il était temps le temps. Je suis dans un scanner, un peu à l'étroit avec mes larges épaules, serrées aux entournures, mais plutôt content de revoir la lumière. Le monsieur au stéthoscope me dit « C'était moi une !» Et je lui dis « Si vous le dites. » Sans lésion, je récupère Pépère. Le surlendemain, à la cafétéria, je bois un breuvage au goût de soupe avec un Marcel à la recherche du temps perdu. Il me parle de sa maladie incurable. Je lui réponds que la vie est une maladie incurable. Il ne comprend pas et nous en restons là. J'ai encore du mal à réaliser et peine à réfléchir posément. Tout me pousse à quitter rapidement l'hôpital. Pourtant, je m'y sens bien. Les gens sont gentils et je suis surpris par cette gentillesse. Nature, sans hypocrisie. J'ai pris d'autres habitudes où le bien-être des autres, en général, on n'en a rien à foutre. Je dois cependant me résoudre à quitter cet endroit. Avant que les flics, me sachant remis, me posent tout un tas de questions pour lesquelles je n'aurai pas les bonnes réponses. Avant que les autres, me sachant vivant, honorent leur nouveau contrat avec la clause « Faites-le assez souffrir pour qu'il vous supplie de l'achever ». Je passe par une porte dérobée réservée au service. Elle un taxi qui me dépose à quelques minutes de ma planque au cas où. Je me douche, me change, puis je quitte les lieux, les poches pleines. Je suis surpris d'avoir gardé autant d'oseille. Pour l'instant, presque tout va bien. Je dis presque parce que des maux de tête affreux me lardent le crâne. C'est très douloureux, mais j'endure assez bien. Je n'ai pas de projet précis, si ce n'est partir en croisière sur un gros bateau pour m'éloigner de tout ce fatras et sauver ma peau. Après, il me suffira d'improviser au fur et à mesure. Les premiers jours de croisière sont fabuleux. Mes maux ont disparu, l'appétit est au beau fixe. Je me suis trouvé une copine qui, outre ses talents, me loge dans sa cabine luxueuse. Je ne sais pas si tous ces petits plaisirs valent 11 mois de labeur et plusieurs années d'économie, mais au moins j'apprécie. Je suis un touriste exemplaire. Je participe à toutes les réjouissances proposées, teste tout et mange avec la gourmandise d'un rital obèse devant une platée de spaghettis. Une semaine. Tout est déjà loin. Au point d'envisager une autre vie. J'ai assez pour monter mon propre business. Une petite affaire de raquette ou de recouvrement. Quand on se contente d'un petit territoire, ça marche dans tous les coins du monde. J'ai assez d'expérience pour mener à bien l'affaire et assez de cash pour m'offrir une ombre qui me protégera des tireurs dans le dos. Bref, tout va bien. Accoudé au bastingage d'un des ponts supérieurs, je devise avec un gros type à moustache, négociant en moutarde. Il traîne avec lui un tombereau d'histoires drôles, pas très marrantes. Je l'écoute distraitement en humant l'air du large avec délice. Mon inspiration à peine terminée, deux hommes surgissent derrière moi, me saisissent par les jambes, me balancent de tout là-haut. Dommage, je commençais à m'habituer au confort.